Et nous allons aujourd'hui aux origines du Québec, aux origines même de l'Acadie, avec Louis Hébert, qui était le premier paysan québécois, le premier seigneur québécois même. Oui, on lui avait remis, à un moment donné, presque toute la ville de Québec. Il n'y avait pas de ville, évidemment. C'était son paysage, sa terre. C'est un héros inconnu, c'est un homme d'une grande valeur. Malheureusement oublié, d'accord, il y a depuis, je crois, 1917, il y a un monument en son honneur à Québec qui a été déplacé, qui est dans un endroit plus intéressant, paraît-il. Mais à Montréal, il n'y a qu'une rue au nord de la rue Masson, une rue sans grande importance, alors que il y a des rues beaucoup plus importantes, comme la rue Sherbrooke, on se demande pourquoi on a des noms comme ceux-là, au lieu d'avoir le nom de Louis Hébert, et vous verrez pourquoi, quand vous aurez vécu avec lui une petite heure en ma compagnie. Louis Hébert, c'est pas n'importe qui. C'est un homme remarquable, né en 1575, et qui est mort en 1627 à Québec. Vous savez qu'il était apothicaire royal, c'est-à-dire pharmacien du roi, jeune pharmacien du roi. Son père l'était, était auprès de la reine Marie de Médicis. Et il a été le premier colon en Acadie, comme je l'ai dit, et au Québec, au Canada. Il était procureur, premier seigneur de la Nouvelle-France, comme je l'ai dit, et fils donc de cet apothicaire important. Marc Lescarbot mentionne le nom de Louis Hébert dans son histoire en 1609, car la première fois qu'il vient ici, Louis Hébert, c'est en 1604, avant la fondation de Québec, comme vous voyez, il vient en Acadie. Et Marc Lescarbot affirme que dans le bassin de Port-Royal, le nom de Louis Hébert a été attribué à l'île Hébert. L'île Hébert et la rivière Hébert, que les Anglais appellent encore aujourd'hui Bear Island et Bear River, et ainsi Hébert est fait par homonymie, synonyme d'ours. C'est tout ce qui lui reste. Les Anglais ont enlevé son nom. C'est un peu triste. Quand Pierre de Mont et le cousin de Louis Hébert, Jean de Poutrincourt, se décident à fonder un établissement en Acadie, Louis Hébert veut tenter l'aventure avec eux. Il est de Paris, Louis Hébert, un Parisien. Henri IV nomme Pierre de Mont donc lieutenant général de l'Acadie. Et il lui accorde le privilège exclusif de la traite des fourrures. Et comme les frais de l'entreprise d'aller établir quelque chose comme ça en Acadie, en 1604, ça excède les moyens de M. de Mont, ben, il y a une compagnie de marchands qui se forme pour faire, justement, profiter de la traite des fourrures, faire de l'argent. Et ils sont pas nécessairement très honnêtes et très ambitieux sur le plan de la colonisation, sur le plan de l'évangélisation. Mais M. de Mont, lui, est quand même un homme qui a du cœur. Il recrute des soldats, des colons, 120 artisans. On part à 4 vaisseaux, c'est des petits vaisseaux. Et plusieurs gentilshommes aussi sont de l'expédition. Et Pontgravé, le vieil ami de Champlain, commande l'un des navires. Champlain a déjà d'ailleurs exploré les Antilles et le Saint-Laurent, mais la curiosité des terres inconnues le possède toujours. Puis il accepte lui aussi avec grand plaisir l'invitation de M. de Mont, qui est Saint-Ongeois, comme lui, vient du Saint-Onge. C'est le 7 avril 1604. Savez-vous que ce sera l'anniversaire dans 5 ans, quand on y pense? Oui? Dans 5 ans, le 7 avril. Donc c'est le 7 avril, je répète, 1604, que la petite flotte prend la mer. 2 mois plus tard, les pionniers côtoient l'Acadie. L'Acadie, la Nouvelle-Écosse, si vous voulez, aujourd'hui. Ils en prennent possession avec une joie de conquérant, mais le lieutenant général commet la faute de choisir une petite île pour y asseoir sa colonie. Et cette île, qu'il nomme Sainte-Croix, n'a qu'une demi-lieue de circonférence. Puis l'eau douce, il manque surtout quoi boire. Alors ça va être catastrophique. Presque tout le bois qui s'y trouve est employé d'abord à construire les logements. Puis comme l'hiver est cette année-là extraordinairement hâtif et rigoureux, mais ces pauvres Français, emprisonnés par les glaces, pensent mourir de froid, puis ils souffrent beaucoup du manque d'eau, voilà. Alors une fois les provisions de vin puis de cidre épuisées, ben il faut boire de l'eau de neige, c'est pas bon du tout. Pour ne pas mourir de soif, qu'est-ce qui leur arrive? C'est le mal qu'on appelle le mal de terre qui éclate, hein? Au milieu du 16e siècle, en 1536, le mal de terre a enlevé à Jacques Cartier un quart de ses marins. Qu'est-ce que c'est? D'après l'illustre navigateur qu'est Jacques Cartier, il en a décrit les symptômes. Voici ce qu'il dit, il écrit, car Jacques Cartier nous a laissé des livres. Avez-vous déjà lu ça? C'est très intéressant, les écrits de Jacques Cartier. Il faut lire ça. Il écrit, les uns perdaient la soutenue, c'est-à-dire ils ne pouvaient plus se tenir debout. Il leur devenait les jambes grosses et enflées. Et les nerfs retirés et noirs comme charbon, et énormes, toutes semées de gouttes de sang comme pourpre. Et Jacques Cartier ajoute, puis montait la dite maladie aux hanches, cuisses, épaules, aux bras et au col, et à tous venait si infecte et pourrie aux gencives que toute la chair en tombait jusqu'à la racine des dents, lesquelles tombaient presque toutes. Alors ces pauvres gens, ce qu'ils ont pu souffrir. Alors sur 79 hivernants, 36 meurent, et plus de 20 voient la mort de très près. Et presque tous les autres sont plus ou moins incommodés. Et 11 chasseurs, heureusement, qui vivent beaucoup au dehors de l'île, se maintiennent seuls en bonne santé parce qu'ils ont pu boire de l'eau douce. L'abandon de l'île Sainte-Croix s'impose donc, mais de Montaton, il voudrait s'établir dans un pays chaud. Je comprends. Il perd un temps précieux en exploration infructueuse et l'été finissait quand Champlain et Poutrincourt le décident à transporter sa colonie sur les bords de la baie de Fundy, à l'endroit que Champlain a nommé Port-Royal. Et là, les épreuves n'ont pas découragé Louis Hébert. Hein, à l'automne, il passe en France, mais pour revenir à Port-Royal l'année suivante avec sa femme et ses enfants. Alors, quand il est de retour, il reprend avec ardeur ses travaux de culture. C'est le premier cultivateur. Et pendant que ses amis chassent et explorent la contrée, ben Louis Hébert, il abat, il arrache, il plante, il sème, il travaille la terre avec joie. C'est un Parisien agriculteur, un pharmacien, un apothicaire. Il est passionné, hein? Il aime la nature. Et les indigènes de l'Acadie, les Amérindiens, ne sont pas cruels. Ce sont des gens vraiment sympathiques. Qui s'attache vite aux Français, puis les Français les traitent en égaux, en frères. D'ailleurs, le baron de Saint-Just, le fils de Poutrincourt, là, apparenté à Louis Hébert, il a même appris avec facilité la langue souricoise. Il la parle parfaitement, et son père lui fait traduire les instructions des missionnaires puis les prières chrétiennes. Et le chef, même Berthoud, suit ses catéchismes avec sa famille. Et même Berthoud, qui a la réputation de l'emporter sur tous les autres Amérindiens en finesse puis en ruse, est un homme de bon cœur. Il agit loyalement avec les Français et son amitié leur est précieuse. Alors, M. Demont a rendu de grands services à Henri IV, le roi de France, pendant la Ligue, je vous expliquerai un autre jour, et il compte sur sa bienveillance. Mais les marchands, là, les espèces de véreux de Rouen et de Saint-Malo, qui veulent faire de l'argent, finissent pourtant par l'apporter, puis le roi lui retire à Louis Hébert, puis à Demont, surtout le monopole du commerce des fourrures. Et dépouillé de son privilège, Demont se trouve dans l'impuissance absolue de poursuivre son entreprise de traite de fourrures. Il délie ses hommes de leurs engagements, puis c'est terminé, tous s'embarquent pour la France, et les Amérindiens sont en pleurs. Il reconduit les Français jusqu'au vaisseau, puis il les supplie de revenir. Alors M. Demont a englouti à Port-Royal une grande partie de sa fortune. Ça l'a dégoûté de l'Acadie, puis quand le roi a mieux inspiré et lui rend le privilège de la traite des fourrures, Mais il passe tous ses droits à son associé Poutrincourt, cousin là de Louis Hébert. Poutrincourt déploie une activité, puis une intelligence admirable. C'est quelqu'un de bien. Au mois de mai 1610, il débarque à Port-Royal avec une petite colonie. Louis Hébert n'a pas hésité à revenir. C'est probablement lui qui dirige les travaux, car quelques pages plus loin dans les textes de l'historien de l'époque, l'Escarbot, il ajoute que Poutrincourt sème du blé et plante des vignes avec l'aide de M. Louis Hébert, très entendu à la culture. C'est le texte de l'Escarbot. Alors, Poutrincourt sait vouloir. C'est un homme qui sait vouloir. C'est rare, ça. Ça prend les saints, ce sont des gens qui savent vouloir. Je vais vous en parler demain en vous parlant de saint Thomas d'Aquin. C'est ce que saint Thomas d'Aquin disait. Pour être un saint, il faut le vouloir. C'est pas compliqué pour saint Thomas d'Aquin. Alors, Poutrincourt sait vouloir et aucun obstacle ne le rebute. Hein, s'il souffre d'être entravé là, par la pénurie de ses ressources, il se décourage pas. C'est pas un homme qui se décourage. Mais à Paris, il y a des personnages influents qui s'unissent contre lui. Au lieu de l'aider à affermir Port-Royal, on forme une société pour fonder un autre établissement en Acadie. C'est la lutte. Les nouveaux colons arrivent au mois de mars 1613. Donc, quelques années, 5 ans après la fondation de Québec, à peu près. Et ils se fixent près des côtes du Maine. Vous savez, dans le nord des États-Unis, là, aujourd'hui. Sur l'île Mont-Désert, qu'ils nomment Saint-Sauveur. Et les ressources ne leur manquent pas. Et tout va très, très bien. Mais écoutez bien, se met à l'automne les colons anglais qui sont installés là, au sud. Ils sont commandés par Samuel Argall, sous-gouverneur de la Virginie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent détruire l'établissement commencé. Ensuite, ils partent vers Port-Royal avec leur bateau. La France et l'Angleterre sont alors en pleine paix. Alors, on se doute de rien à Port-Royal. Il n'y a donc personne au fort. Tout le monde est au champ, à 2 lieues de là à peu près. Bon, un bon bout. Et les puritains, comme on les appelle, les Américains, les Anglais, payent d'abord l'habitation des Français. Puis Argall fait mettre le feu à Port-Royal. Quelques heures après, de tout cet établissement qui a coûté aux Français tant de sacrifices, tant de labeur, il ne reste plus que les cheminées qui se dressent hautes et noires sur les cendres fumantes. L'incendie de Port-Royal ruine complètement M. de Poutrincourt, le cousin, comme je vous ai dit, de Louis Hébert, et on ne peut songer à rien reconstruire. Et peu après le désastre, eh bien, la plupart des colons repassent donc en France, et l'âme en deuil, Louis Hébert parcourt une dernière fois ses champs défrichés avec tant de fatigue. Il a défriché des champs, il faut les abandonner. La rupture lui en était cruelle. Cette fois, il n'espère plus revenir. Il faut dire adieu à la terre acadienne qu'il aime, où il a cru s'établir pour jamais. Alors, bien avant cette catastrophe de la destruction de nos établissements dans le Maine et en Acadie, à Port-Royal, par les Anglais, mais bien avant cette catastrophe, Champlain avait quitté l'Acadie. Il croyait pas au succès de l'entreprise, d'ailleurs. La péninsule, qui était facilement colonisable, lui paraissait impossible à défendre. Alors, malgré la rigueur du climat, bien, il y avait la vallée, au loin, là-bas, du Saint-Laurent, qui lui semble offrir à une colonie plus de ressources, plus de chances de durer. Alors, à son retour de Port-Royal, Champlain a rencontré Pierre Demont à Paris, le même Demont, là. L'ex-lieutenant général de l'Acadie, presque ruiné par son insuccès, comme je vous ai dit, s'est décidé à tenter fortune sur les bords du Saint-Laurent. Alors, avec son aide, Champlain, en 1608, avait fondé Québec. Depuis l'exploration de 1603, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il avait nourri le rêve d'un établissement à cet endroit, dans la vallée du Saint-Laurent. Mais la compagnie formée pour aider Champlain ne songe qu'à des énormes profits du commerce des fourrures. Toujours l'argent, 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 sans âme, hein? C'est pas d'aujourd'hui, comme vous voyez. Et ces marchands entravent si bien Champlain qu'en 1617, Québec n'est encore qu'un petit poste de trafiquant de fourrures et d'autres choses perdues dans l'immensité des bois. Aucun colon, c'est-à-dire aucun cultivateur, aucune personne qui veut vraiment s'insérer dans le pays, n'a pu passer en Nouvelle-France. Hein? Oh, il y a bien Pierre Desportes, Nicolas Pivert et Abraham Martin. Je me permets de dire que je descends d'Abraham Martin. Vivait de traite, de chasse et de pêche. Et puis, il n'y a encore dans ce mancier qu'un tout petit jardin autour de ce qu'on appelle l'habitation, vous connaissez ça, hein, à Québec, et Champlain le cultive de ses mains propres. Mais ses mains doivent être sales. Oh, je pars. Champlain sait parfaitement quelle difficulté Louis Hébert a essuyé en Acadie, mais il l'a vu à l'œuvre. Hein. Il connaît sa générosité et sa grandeur d'âme. Vous allez voir comme ce Louis Hébert est merveilleux. Pendant le séjour qu'il fait à Paris en 1617, il ne craint pas de faire appel donc au patriotisme de Louis Hébert, à son dévouement, puis de lui proposer d'aller commencer à Québec le défrichement de la Nouvelle-France. Oh, ce n'est pas une province, c'est un nouveau monde qu'il veut donner à la France. Pas une province. Et Louis Hébert n'hésite pas à répondre qu'il l'aidera de toutes ses forces et qu'il le suivra à Québec. Sa femme trouve tout simple, tout naturel d'affronter les plus effroyables périls qui poursuivent son mari. Vous allez voir quelle femme extraordinaire c'est. Les femmes du Québec devraient honorer cette femme de demoiselle Relais extraordinaire. Cette fois, le départ sera définitif et les deux époux mettent leurs biens en vente. Et évidemment, la décision d'Hébert, Louis Hébert est jugé sévèrement. Mais ses parents, ses amis la trouvent d'une extravagance absolument insensée. Et c'est très vrai, dit Hébert. Oui, Louis Hébert le reconnaît, c'est insensé. Mais il n'est pas sans songer beaucoup à tous les dangers, à tous les obstacles. Mais avec le désir d'aider à fonder une nouvelle France. Et tout ça, ça l'encourage. Et ce qu'il sait de la férocité de nombreux Amérindiens dans la région de Québec, ça ne l'épouvante pas. Au contraire, c'est curieux, hein, ça le touche. Comment ça, vous direz, ça le touche? Mais oui, c'est que c'est un chrétien profond. Il a une immense compassion pour ces pauvres malheureux. Puis il a l'espoir de contribuer au salut de quelques âmes. Ça lui facilite tous les sacrifices. Alors, les Hébert s'embarquent à Honfleur le 14 mars 1617. Hein? Louis Hébert avec sa femme, ses trois enfants, Guillaume, Anne et Guillemette. Champlain, lui, est avec deux missionnaires, le fameux père Joseph Le Caron, qui a été, savez-vous, le premier maître d'école ici, puis le père Huet, aussi un autre extraordinaire. La traversée est affreuse, très longue. Les tempêtes, les glaces, mettent souvent le petit vaisseau en extrême péril. C'est l'historien Sagard qui raconte, après avoir été 13 semaines et un jour dans l'appréhension continuelle de la mort, eh bien, le 14 juin 1617, on atteint enfin Tadoussac, où tous les navires s'arrêtent à cette époque, et là, on part en canot, pour se rendre à Québec. 1617, est-ce qu'on fêtera ça en 2017? En 2004, la première arrivée, puis en 2017... A-t-on assez de caractère pour se rendre compte de nos origines, mon Dieu? Alors là, les marins, comme les passagers, voient dans l'arrivée au port un grand miracle. Et écoutez bien, hein, ils veulent sans tarder remercier Dieu. Alors au pied des rochers, qui sont couronnés de sapins, là, les matelots, aidés de charpentiers, élèvent une chapelle. Une chapelle de verdure, si vous voulez. Madame Hébert et ses deux filles ornent l'hôtel de fleurs sauvages. Le père Huet offre le Saint-Sacrifice de la messe en action de grâce, par amour pour Dieu. Et tout l'équipage assiste à la messe avec un profond respect. Puis le capitaine fait tirer plusieurs salves. Le capitaine, c'est qui ça? C'est le capitaine Morel. Je le dis parce qu'il y a des Morel ici. C'était un vrai chrétien. Et écoutez bien que dans un voyage qu'il a fait au Moyen-Orient, chez les Arabes, les musulmans, il est pris justement par les musulmans. Les musulmans veulent l'obliger à marcher sur une croix. Il refuse. Et qu'est-ce qu'on fait de lui, de ce capitaine Morel? qui a conduit toute cette équipe à Tadoussac, Québec. Il a été tout simplement empalé. Si vous savez pas ce que c'est, regardez dans le dictionnaire, c'est terrible. Terrible. Ah, c'est épouvantable. Champlain aime la Nouvelle-France d'un amour incurable. Y revenir lui est toujours une grande joie. Et bien des fois, il a décrit à son ami la beauté du site de Québec. Que c'est beau, Québec. Hein? Alors, la maison de Louis Hébert est construite en haut, dans ce qu'on appelle la Haute-Ville aujourd'hui. C'est le premier bâtiment élevé à l'emplacement, donc, de là. On a dit que la maison de notre premier colon était dans la grande allée du jardin du séminaire, près de la porte. On en a trouvé les fondations. Cette maison avait 38 pieds de longueur sur 19 de largeur et était en pierre. Alors Champlain voit donc avec une joie profonde s'élever cette maison de Louis Hébert. Elle lui apparaît comme un signe d'espérance. Et le jour où la famille Hébert s'y installe, c'est pour lui un heureux jour. Champlain y a enfin un vrai foyer dans la Nouvelle-France en 1617. C'est donc avec une émotion profonde que le père Joseph Le Caron, là, ce prêtre extraordinaire, bénit la demeure du pionnier de l'agriculture. Il lui semble célébrer l'alliance de l'homme, de nos ancêtres, avec la terre du Québec. Et une fois sa famille convenablement logée, Louis Hébert prend la hache, puis autour de son humble logis, là, il s'attaque à la forêt, mais il faut déraciner les arbres, c'est très dur. Il est moulu de fatigue, les mains ensanglantées. C'est comme ça que Louis Hébert regagne le soir sa maison. Mais chaque matin, il faut reprendre le labeur, il faut retrouver en soi le même courage. C'est comme ça la vie d'ailleurs. Et à l'automne, bien Champlain doit s'embarquer pour la France. Et l'approche de ce départ donne à Louis Hébert une nostalgie du pays. Il a l'impression presque que le Québec lui est odieux, cette ville lui est odieuse, cette petite ville, ce petit village, rien du tout. Et son âme s'en va plutôt vers la France, vers Paris qu'il connaît. Il est parisien, hein, où il a grandi, où il a vécu. Il l'a toujours sous les yeux et longtemps, bien, suit du regard la barque là, qui conduit Champlain à Tadoussac, d'où l'on prend les vaisseaux pour la France. Hein. Il songe à ce que sera l'hiver dans cet isolement, dans cet immense désert de neige. Il sent le découragement qui l'envahit, mais il prend le sentier de la chapelle pour y prier Dieu de l'aider. Bientôt viendra le froid vif. Hein. Ce froid aigu que nous connaissons tous, hein, qui mord et qui brûle la peau. Courageusement, Louis Hébert se prépare à l'hiver, si long, si rigoureux. Alors les cordes de bois s'allongent, évidemment, les bûches s'entassent. Les sauvages, comme on les appelait à l'époque, affreusement tatoués, marchent comme des chats, hein, ils rôdent souvent aux alentours de sa maison, et quand la fantaisie d'entrer dans la maison leur vient, qu'est-ce que fait Madame Hébert? Bien, elle dissimule de son mieux sa crainte, elle les reçoit, elle tâche de s'habituer à leurs allées et venues qui sont plus ou moins étranges, elle se confie à Dieu, elle prie, c'est ce qu'elle fait avec son mari, ses enfants. Mais quand le vent déchaîné s'acharne sur la maison puis la forêt, puis que la nuit s'emplit de plaintes, là, vous savez, c'est comme des plaintes dans la nuit, là, puis les sinistres hurlements des animaux et tout ça, quel courage ça prend, hein, pour ces pionniers de la civilisation, ils ont des angoisses terrifiantes, et nos ancêtres avaient ça. Hein. Ça s'ajoute aux souffrances inhérentes à la vie des colons de tous les temps. On n'en reste pas moins fidèle à la Nouvelle-France. Hein. À la fin de l'automne, Louis Hébert marie sa fille Anne, qui n'a pas encore 15 ans, à Étienne Jonquet, un jeune Normand établi à Québec. C'est le premier mariage célébré au pays, selon les rites de notre Église. Jonquet vient demeurer chez son beau-père, dans cette maison isolée. Un deuxième homme est un précieux renfort. Hein. Et comme on n'a pas encore pratiqué de chemin, les rapports avec les hivernants ne sont pas toujours faciles, mais il y a Beauchesne qui commande à l'habitation en l'absence de Champlain. Il y a le docteur Adrien Duchesne, Abraham Martin, Nicolas Pivert, Pierre Desportes, Guillaume Couillard. Ce sont des ancêtres. Hein. Visitent souvent la famille Hébert et on cause, on rit, on raconte des histoires de sauvages, des exploits de chasseurs, on chante des airs et des chansons de France. Puis il voit surtout avec plaisir les interprètes qui viennent chez lui, qui ont appris leur langue. Il y a un dénommé Marcellet, qui est surnommé le petit roi de Tadoussac. Il y a quelqu'un qui vient chez lui, Jacques Hertel, le fastueux Jacques Hertel, qui porte de riches manteaux, puis de belles dentelles, des gants à glands d'or, dit que s'assoit à son foyer. Alors tout ce monde-là parle de leurs aventures, des coutumes des indigènes, de leurs superstitions, et Hébert les interroge sur les langues, hein. Il tâche d'apprendre même un peu de montagnais, un peu d'algonquin. Louis Hébert, dans Les Sauvages, là, il ne voit pas des pourvoyeurs de fourrures. C'est pas l'argent qui l'intéresse et l'attrait des fourrures, mais il voit des frères. Ce sont pour lui des frères, des êtres humains, qu'il veut éclairer, qu'il veut civiliser et sauver. Il veut cultiver mieux que le sol, il veut cultiver les âmes. Et sa maison est toujours ouverte aux Amérindiens, car il les aime. Le dimanche, toute la famille descend le sentier abrupt de la montagne pour assister à la messe. Et là, en bas, il y a des chaudières dans l'église, des chaudières pleines de braise qui réchauffent cette petite chapelle. Et puis, ils peuvent entendre, comme aujourd'hui à la messe, nous allons entendre à la messe si nous y allons, cette belle parabole de Jésus. Et je la lis parce qu'il est question du semeur. Lui qui était un semeur, Louis Hébert le premier. Et Jésus dit, écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé avec du grain. Il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont tout mangé. Jésus ajoute, du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde et lorsque le soleil s'est levé, bien ce grain a brûlé. Et faute de racines, bien il a séché. Et puis, Jésus dit, du grain est tombé aussi sur les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, il n'a pas donné de fruits. Mais écoutez bien ce que Jésus ajoute. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre, comme dans le cœur de Louis Hébert et sa femme, sa famille. Et ces grains ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et j'aime bien la conclusion de Jésus, qui dit, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Mon Dieu, que j'aime quand Jésus dit des choses comme ça. Alors, l'hiver passe, heureusement, il y a des alarmes. À un moment donné, il y a des Amérindiens qui veulent attaquer Québec. Et puis, c'est vraiment très, 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 très inquiétant. C'est une vengeance contre des événements qui sont survenus entre des Français, deux Français, puis il y a un Indien qui veut venir vraiment attaquer Québec. Il y a à peine 50 hommes à Québec, la poudre manque à l'habitation, mais le commandant est admirable de calme. Il assure aux Amérindiens cabanés à Québec là qu'il fera pendre les auteurs du complot. Alors là, les femmes et les enfants vont lui demander pardon. Tous protestent de leur attachement pour les Français. Et pendant ce temps, Louis Hébert croit sa fin arriver, lui qui est à l'extérieur des murs, et il songe à ce que lui ont dit ses amis de Paris, hein, et heureusement, le frère Pacifique s'emploie si bien auprès du chef amérindien que le projet de destruction avorte. Le chef persuade les Amérindiens que le massacre des Français ne sera d'aucune utilité à la nation et qu'il vaut mieux faire la paix avec eux. Et chargé de présents, mais les Algonquins montagnais viennent à Québec offrir des réparations pour le meurtre qui avait été commis. Avec quel intérêt un Louis Hébert voit l'éclosion du printemps puis le renouveau après l'hiver là, dans la forêt? Cette forêt qui est vieille comme le monde, on dirait, puis il y a des épreuves qui l'attendent. Les fameux marchands de la compagnie n'ont pas tardé à reconnaître en lui un colon sérieux, alors ils ne veulent pas voir du tout dans le Canada autre chose qu'un pays de traite. Et notre premier cultivateur, bien, se heurte désormais à un mauvais vouloir implacable de leur part, et à force d'ennuis, de tracasseries, de vexations, de persécutions absolument mesquines, on espère le dégoûter, le décourager, puis le décider à retourner en France. Et c'est l'historien, le frère Sagard, qui est indigné de ces injustices, comme nous le sommes aujourd'hui devant tant d'injustices, c'est pas d'aujourd'hui. Il dit, « Oh Dieu, partout les gros poissons mangent les petits. » Que c'est donc vrai, toujours. Hein? Mais la fermeté de Louis Hébert est inébranlable. Alors réduit à préparer ses champs à la bêche. Il bêche, il pioche sans regarder à la fatigue. Et puis dans ses sillons péniblement creusés par lui-même, là, par un beau jour de mai, il jette triomphalement la première semence. La première semence, comme le semeur dont Jésus parlait tout à l'heure. On peut imaginer avec quelle émotion Hébert regarde la terre brune du Québec ou le grain d'or. Avec quelle joie il voit poindre et croître la semence, se développer et mûrir de beaux épis barbus, hein. Ah. Une figure s'ébauche et prend corps devant lui. C'est la Nouvelle-France, la jeune patrie aux destinées fantastiques à qui il a tout sacrifié. Il est notre père dans un sens. Louis Hébert, le connaît-on? Mon Dieu! Ce n'est pas seulement dans la lutte contre les hommes et les difficultés qu'Hébert a eu besoin d'énergie. Dans l'été de 1619, il lui arrive des malheurs. Sa fille meurt à 16 ans, oui, et peu après son mari, vous savez qui vivait à la maison, le rejoint dans la mort. Ses deux jeunes époux, tout jeunes, disparus. Oh, ça crève le cœur de Louis Hébert, et désormais, Louis Hébert va travailler avec une plaie au cœur. Et cette même année, le frère Pacifique Duplessis, que tout le monde vénérait, un religieux d'une admirable charité, qui meurt à Québec. Ses obsèques sont très solennelles. Il est inhumé dans la petite chapelle, puis pleuré par les Français et par Louis Hébert, et par les Amérindiens même. Et ses morts n'empêchent pas Hébert de poursuivre vaillamment ses travaux, car Champlain, qui les suit avec un intérêt passionné, écrit, transporté de joie à son arrivée de France, là, quand il revient au Québec en 1620, il dit: je visitais les lieux, les labourages de terre que je trouvais ensemencés, chargés de beau blé, les jardins chargés de toutes sortes d'herbes, comme choux, raves, laitues, pourpiers, oseilles, persil et autres légumes aussi beaux et avancés qu'en France. Bref, le tout s'augmente à vue de l'œil. Formidable. Qui pourrait dire ce que tout cela représente de fatigue? Mais les marchands, eux, ne désarment pas. Ils s'attribuent des droits sur les récoltes de Louis Hébert. Ils le forcent à leur vendre ses blés au prix qu'eux-mêmes fixent. De vrais bandits, quoi. Il faut croire, dit l'historien Fayon, que cette vexation était aussi notoire que criante, puisqu'elle entra dans les motifs de l'édit royal de 1627, l'année de la mort de Louis Hébert, qui supprima la compagnie des marchands de Rouen et de Saint-Malo. C'en était fini au moment de la mort de Louis Hébert. Alors, plus une âme est noble, plus la bassesse et l'injustice le révoltent. Hein? Hier, je vous ai parlé de Gaétan Giroir, qui était un homme qui se révoltait devant l'injustice. Eh bien, la conduite des associés doit soulever dans l'âme d'Hébert qu'à ses successeurs aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Louis Hébert, j'espère, et il a des tempêtes d'indignation, mais sa constance est immuable. Il poursuit ses travaux avec intelligence. Il a fait venir des pommiers de Normandie, pensez-vous, et il a planté des vignes qui lui donne d'excellents fruits, et c'est probablement sur le conseil de Champlain qu'il demande au vice-roi de confirmer la concession de 10 arpents qui lui a été faite. Et dans sa requête, Louis Hébert allègue qu'il est le premier chef de famille établi dans la Nouvelle-France, qu'il a tout quitté, tout sacrifié pour travailler à l'établissement de la colonie. Alors le vice-roi répond en lui donnant en fief, quoi, une grande partie du terrain de la ville actuelle de Québec. Mais Hébert est donc le premier seigneur de la Nouvelle-France. En 1621, il marie sa fille Guillemette à Guillaume Couillard, dont descend une grande partie des Couillards, sinon tous les Couillards qu'on connaît, j'en connais. Arrivé au pays en 1613, lui, Couillard est charpentier, il est au service de la compagnie, mais au foyer inspirateur de Louis Hébert, il devient vite un agriculteur, passionné lui aussi. Il seconde son beau-père avec une vaillance admirable et Champlain témoin au mariage de Guillemette Hébert. En 1620, il a amené sa jeune femme, Hélène de Champlain. Elle a 16 ans. Madame de Champlain passe 4 ans à Québec. Avec quelle fierté, Louis Hébert l'invite au printemps à monter voir sa vigne, une belle vigne en fleurs, les pommiers blancs et roses. Et la jeunesse de Madame de Champlain la rapproche de Guillemette Hébert. Alors, il semble qu'elle l'a souvent invité à l'habitation. Elle y est du moins quand, dans l'été de 1622, 30 canoës iroquois apparaissent sur le fleuve. Alors, l'épouvante est grande. 30 canoës iroquois. Champlain est absent du Québec, presque sans défenseur. Ses ennemis défilent fièrement. Ils prennent la rivière Saint-Charles, se dirigent vers le couvent des Récollets, des franciscains. Ils sont accueillis par une fusillade qui abat 8 des leurs, 8 Iroquois. Alors là, les montagnais se sont joints aux Français, puis les Iroquois ne peuvent s'emparer de la maison. Et leur serait facile de tout ravager à Québec, mais ils n'osent pas risquer l'attaque. Hein, 8 morts, ça suffit. Dieu veille sur Québec à cette époque. Veille-t-il toujours sur nous? Mon Dieu! La construction du fort Saint-Louis apporte sans doute à Hébert un grand soulagement. Et au besoin, c'est un refuge pour sa famille. Et on a enfin des voisins, et toutes les semences jetées en terre poussent drues et hautes. Et Hébert, si fort, si robuste, ne doit pas jouir du fruit de ses labeurs. Au mois de janvier 1627, il tombe sur la glace. Et les suites de cette chute le mettent bientôt à toute extrémité, près de la mort. En quelques jours à peine, hein? Oui, ses souffrances puis la vue de la mort ne troublent cependant pas la paix de son cœur. C'est un chrétien profond. Il règle ses affaires avec sérénité puis au contentement de tous. Et chez Louis Hébert, il y a un cœur d'apôtre. Il déclare sur son lit de mort, « Je meurs content, puisqu'il a plu à notre Seigneur de me faire la grâce de voir mourir des sauvages convertis. J'ai passé les mers pour les venir secourir, plutôt que pour aucun intérêt particulier. Et je mourrais volontiers pour leur conversion, si tel était le bon plaisir de Dieu. Je vous supplie de les aimer comme je les ai aimés, et de les assister de tout votre pouvoir. Dieu vous en saura gré, et vous en récompensera en paradis. Ils sont créatures raisonnables comme nous. Ils peuvent aimer Dieu comme nous et plus que nous. Par vos bons exemples, par vos prières, il faut leur apprendre à le connaître. » Alors le père Le Caron lui administre les derniers sacrements qu'il reçoit avec ferveur. Louis Hébert réunit ensuite sa femme, ses enfants autour de son lit. Il leur recommande de s'entraîner véritablement. Puis de vivre toujours en parfaite union comme leur donne la loi divine. Et il dit « Cette vie est courte ». Et c'est l'avenir est éternel, et il ajoute, je suis prêt d'aller devant Dieu, mon juge, auquel je dois rendre compte de toute ma vie. Alors priez-le pour moi, afin que je trouve grâce devant sa face, et que je sois du nombre des élus. Puis, levant la main, il bénit sa femme, sa compagne de vie. Il bénit ses enfants. Il s'endort dans la paix du Seigneur. C'est le 27 janvier, 1627. Il y a quelques jours, le 8 janvier, je vous ai parlé de la première femme écrivain de notre pays, Laure Conant. Et c'est elle qui a publié une petite vie intéressante de Louis Hébert qui m'inspire aujourd'hui. Je veux lui rendre hommage à Laure Conant. Et je vous parle du premier agriculteur québécois. Louis Hébert, il y a, comme je vous ai dit, une âme d'apôtre. Il est mort comme un saint presque. Il est inhumé dans le cimetière des Récollets, au pied de la Grande Croix. Lui-même l'a demandé dans une visite aux religieux 3 jours avant l'accident, quand il est tombé sur la glace, là, qui lui coûte la vie. Comme si Dieu, dit l'historien Sagard, lui eût donné un sentiment de sa mort prochaine. En 1670, cet endroit du cimetière a été renversé. On a trouvé ses ossements enfermés dans un cercueil de cèdre. Alors, 2 ans après sa mort, en pleine paix, Québec manquant de tout, tombe aux mains des Anglais en 1629, et presque tous les Français repassent en France. Mais écoutez bien, vous, mesdames, Madame Hébert ne veut pas y retourner. Quelle femme courageuse! Comme Champlain, elle refuse à croire que le Canada perdu pour la France est vraiment perdu. Elle ne le croit pas. Son cœur est enraciné au sol, à Québec. Elle ne veut pas quitter le foyer que son mari a construit, où pour elle, quelque chose de lui habite encore. On sait qu'en 1632, donc À peine 3 ans plus tard, le traité Saint-Germain-en-Laye restitue le Canada à la France. Alors, de 1629 à 1632, les Anglais ont presque tout ruiné à Québec en 3 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, on cache ça, on dit jamais, on pense toujours que les Anglais se sont conduits à notre égard de façon si charmante. Ils sont venus avec des tasses de thé et de la dentelle. Mais non, en arrivant, Champlain ne voit à la basse ville de Québec qu'une pauvre masure et quelques misérables baraques. De l'habitation, comme on l'appelait, des magasins, des différents corps de logis, il ne reste, d'après les relations des Jésuites, que des murailles de pierre toutes bouleversées. Mais la maison de Louis Hébert a été heureusement respectée par les Anglais, et sa veuve l'habite avec ses enfants et son gendre. Il respectait les familles. Comment dire, le transport de nos ancêtres quand ils aperçoivent le pavillon blanc au mât des navires qui arrivent, et que Champlain est heureux de retrouver ceux qu'il a laissés 3 ans auparavant. Ils l'attendent sur le rivage, ils sont fous de bonheur. Il n'y en a pas un qui manque. Madame Hébert, son fils Guillaume, Madame Couillard et son mari, les autres Français restés à Québec, tous sont là. Et aussi les petits Couillards, si beaux d'après le père Lejeune. Le rédacteur des Relations, je vous ai fait une émission sur le père Lejeune, hein, jésuite. C'est dans la maison de Madame Hébert que le missionnaire célèbre la messe à son arrivée. Et il dit dans les Relations, « Bon Dieu, quelle joie !» Les larmes tombaient des yeux quasi à tous de l'extrême contentement qu'ils avaient. « Oh, que nous chantâmes de bon cœur le Te Deum Laudamus !» Sans doute, Louis Hébert est là, dans son pays, libéré, louant et bénissant Dieu avec les siens et avec Champlain. Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents. Hein? Pensez-vous que vos morts sont toujours près de vous, hein? Comme Louis Hébert était près de sa femme et ses enfants. Et Madame Hébert, elle survit 22 ans à son mari. Elle en arrive à se remarier à un colon venu de Normandie, Guillaume Hubou Deslongchamps. Je salue les Deslongchamps qui m'écoutent. Ce mariage lui permet d'entreprendre une œuvre généreuse pour les indigènes. Alors, dans sa maison, Madame Hébert, sa maison du Coteau Sainte-Geneviève, elle reçoit un certain nombre de petits sauvagesses. Elle les nourrit, les loge, les entretient comme ses propres enfants, puis elle tâche de les instruire, puis de les préparer au baptême. Et elle fait comme va faire bientôt Marie de l'Incarnation, dont je vais vous parler dans quelques semaines, qui a fait un travail extraordinaire auprès des petites Amérindiennes. Et l'horrible malpropreté de ces pauvres petites filles. Oh, si vous saviez, quand on dit, elles étaient tellement sales, c'est épouvantable. Eh bien, c'est comme ces filles adoptives. Ça la rebute jamais, Madame Hébert, qui s'appelait Marie Rollet. Vénérée Marie Rollet, comme la première femme de grand courage ici. Femme mariée, mère de famille. Elle disait, je vous supplie d'aimer les sauvages comme je les ai aimés. Elle répétait les paroles de son mari mourant. Louis Hébert n'a pas de descendants de son nom. Mais pour les femmes, sa postérité est innombrable et beaucoup de nos familles les plus influentes se glorifient d'avoir pour ancêtre notre premier colon. Puis cette fierté est très légitime, à mon avis. Soyons fiers. La fierté, c'est normal. Fiers parce que c'était des grands chrétiens d'abord, mais fiers aussi parce que c'était des êtres humains vrais, debout. Hébert a été le meilleur auxiliaire de Champlain, au prix d'effrayants sacrifices. Vous savez que le fils de Louis Hébert, Guillaume, a épousé Hélène Desportes en 1634. Puis, il a eu 2 filles puis un fils qu'il nommait Joseph. Mais ce pauvre Joseph Hébert, qui a épousé Charlotte de Poitiers, n'a pas eu d'enfant, puis il a péri dans une expédition contre les Iroquois qui l'ont assassiné. Vous savez, ça mourrait facilement aux mains des Iroquois dans ce temps-là, hein? Alors, il a ouvert, Louis Hébert, la voie aux défricheurs. Il est à la tête de cette armée de travailleurs qui ont transformé notre pays, qui nous ont conquis une patrie. Nous avons une patrie plus grande que la France, plus grande que l'Europe presque. Hébert défriche de ses mains le terrain où s'élève la basilique de Québec aujourd'hui, puis l'archevêché, etc., l'ancienne université. Sa maison est le berceau du séminaire. C'est l'historien Ferland qui dit, après Champlain, ce fut Louis Hébert qui prit la plus grande part à l'établissement de Québec, à l'avancement de la colonie. Cependant, jusqu'ici, qu'a-t-on fait pour honorer et pour populariser sa mémoire? Au lieu d'avoir des grands monuments à Sir Georges-Étienne Cartier, au roi Édouard VII, à la reine Victoria, à MacDonald, à Robert Burns, mais j'aime bien ce poète, aux soldats de la guerre des Boers, à toutes sortes de choses qui soient. Et on n'a rien pour Louis Hébert, c'est incroyable. Je m'excuse, je m'emporte. Bon, mais le Christ s'emportait aussi, mais pour de meilleures raisons, Jésus. En 2017, dans moins de 20 ans, il y aura 100 ans que Louis Hébert a traversé définitivement la mer, l'océan, pour venir commencer le défrichement à Québec. Ce quatrième centenaire, est-ce qu'on va le célébrer? Espérons qu'il le sera. Est-ce qu'on va élever des monuments à Louis Hébert, puis aussi à Marie Rollet? Je demande aux femmes de s'en occuper pour Marie Rollet, son admirable épouse, la mère de ses enfants. Jamais le Québec n'aura plus belle occasion, il me semble, d'honorer puis de glorifier non seulement le travail de notre terre, mais la force d'âme, puis les vertus de nos ancêtres, comme l'écrit si bien Laure Conant. Ah, mon Dieu, rappelons-nous la parabole du semeur que je vous ai lue tout à l'heure. Vous savez, le sculpteur Alfred de la Liberté a représenté Louis Hébert alors qu'il offre au Seigneur sa première gerbe de blé à Québec. Et le monument a été enlevé pour permettre l'aménagement d'aires souterraines de stationnement à Québec. On l'a restauré puis on l'a réédifié un peu plus loin dans un beau décor. J'espère qu'il y est toujours et que mes notes ne sont pas trop en retard. Je vais prier avec vous la dernière prière de la messe d'aujourd'hui. Renouvelé par le corps et le sang de ton Fils, comme Louis Hébert et sa femme et ses enfants le faisaient, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, ô Père, dans l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.